94.3.
Bienvenue à Point de vue, Boris Chassaigne qui vous accompagne pour les 30 prochaines minutes. Aujourd'hui, la Bibliothèque publique de Toronto à la rescousse des francophones et francophiles qui s'ennuient de la langue de Molière.
Ces ateliers-là m'inspirent beaucoup sur comment lire les choses. Pourquoi l'écrivain voulait écrire comme ça? Quel message ils veulent nous donner? Quelles émotions ils veulent partager avec nous?
Ceci alors que la francophonie albertaine plurielle apprend l'anglais aux nouveaux arrivants et que la bibliothèque rurale de Kedgwick au Nouveau-Brunswick célèbre ses 40 ans.
La bibliothèque, pour moi, c'est vraiment l'image culturelle de notre communauté. La lecture nous fait voyager, mais la lecture aussi nous rend plus volubiles, nous donne des ailes. Puis maintenant qu'on fait des prêts d'objets, ben là, écoute, il n'y a pas de limite.
L'entrepreneuriat conscient, ça vous dit quelque chose? En Ontario, des élèves du secondaire apprennent à devenir les hommes et femmes d'affaires de demain.
On appelle ça la pédagogie entrepreneuriale. Elle est dans toutes nos écoles élémentaires. La pédagogie entrepreneuriale consciente qu'on appelle. Et c'est des jeunes qui se prennent en main puis qui développent des projets. Puis qu'au niveau même de la salle de classe, sont évalués en fonction d'objectifs en français. Ça peut être en mathématiques, c'est inclus. Donc, on vise toutes les matières.
Puis, on se promène sur la côte nord au Manitoba, dans les territoires du Nord-Ouest et en Ontario, ceci plus encore à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Eh bien, on a une émission très chargée aujourd'hui, premier arrêt en Ontario. La Bibliothèque publique de Toronto s'est mise au service des francophiles et francophones ontariens évoluant dans cet océan anglophone, eux à qui la Bibliothèque publique de Toronto offre son programme de service en français, lequel s'est donné pour mission de leur présenter des ateliers de lecture, des discussions, mais aussi des rencontres avec des professionnels. Un programme dont les activités sont très fréquentées grâce notamment aux relations qu'entretient la Bibliothèque avec les différents organismes français francophone de la ville. Notre journaliste Marine Togali est une francophone qui fait carrière à Toronto. Elle a rencontré Peter Kuby-Dura, spécialiste des services en français des programmes pour adultes de la bibliothèque. Mais elle est d'abord avec Zoé, qui est devenue une adepte des ateliers en français de la Bibliothèque publique de Toronto.
Après avoir suivi autant d'ateliers, j'ai envie d'écrire. Donc peut-être un jour, j'aurai eu le courage d'écrire. Ouais, pour l'instant, je n'écris pas. Je pense que ces ateliers-là m'inspirent beaucoup sur comment lire. Comment lire les choses. Pourquoi l'écrivain voulait écrire comme ça? Quel message ils veulent nous donner? Quelles émotions ils veulent partager avec nous?
Les services y sont gratuits, fournis par le réseau de 100 succursales, dont par exemple 81 bibliothèques de quartier, mais aussi 17 bibliothèques de district, 2 bibliothèques de recherche et de référence. La TPL, comme on l'appelle, donne aussi accès à des ressources en ligne, à des bibliobus et des services à domicile. Peter Kuby-Dura, spécialiste des services en français, pour les programmes adultes notamment, est en poste depuis plus de 5 ans. Il nous parle des différents événements en français.
On se voit proposer environ 30 programmes, parmi lesquels les ateliers à marionnettes, des ateliers de sciences, technologies, des spectacles de musique, et des chansons, et des représentations théâtrales par un comédien et visites d'autrices.
La Bibliothèque publique de Toronto a des bâtiments un peu partout dans la ville, dans laquelle ont lieu des programmations en français et en anglais.
Ces événements vont se dérouler à travers de notre réseau, dans plusieurs quartiers, et nous invitons également les francophiles et les francophones. Ce sont des programmes qui sont gratuits. Ils s'adressent à tous les gens qui comprennent le contenu en français.
C'est la richesse de ces événements. Ils sont ouverts à tous et à toutes, rappelant la diversité de Toronto. C'est ainsi que Peter a pu constater une belle participation qu'il construit en lien avec les organismes et associations francophones de la ville.
Donc nos présentatrices et nos interprètes sont déjà autant variés que notre public, parce que c'est tout à fait naturel à Toronto, une ville qui vibre de tant de diversité. Je peux dire que les participations sont assez solides. Et parfois, nous travaillons avec différents partenariats, comme l'Alliance française de Toronto ou Centre francophone du Grand Toronto, Association des auteurs de l'Ontario français. Donc, et grâce à ces collaborations, nous sommes capables d'attirer les gens de différents groupes et différents types.
Parmi tous les événements qu'il a mis en place, Peter nous en parle de quelques-uns.
Il y a une série des conférences d'art qui sont faites par Gilles Gentil, qui est spécialiste d'art contemporain. Et c'est en programmation qui est faite en collaboration avec l'Alliance française de Toronto. Et la deuxième que je vais mentionner, c'est Atelier écriture avec Lamara, Papita Chfili, d'autrice d'ici. Et ils sont menés pour la deuxième fois. C'est en sixième, je pense, épisode. Aujourd'hui, c'est centré sur comment on peut structurer son histoire.
Lamara Papitagili anime plusieurs ateliers pour la ville de Toronto. Elle est romancière, dont deux ouvrages ont été publiés, le premier sous le titre « Une adolescente en exil » et le dernier « Adieu Staline ». Son parcours révèle une richesse propre à la diversité culturelle. Elle est née à Damas, elle est arrivée au Canada à 12 ans. Après avoir voyagé quelques années en Europe, elle est revenue s'installer à Toronto il y a 3 ans. Lamara animait déjà des ateliers grâce à des associations francophones, et à la suite de son dernier roman, Peter lui a proposé d'animer des ateliers à la bibliothèque de référence.
J'ai fait une série de 4 ateliers sur écrire mon roman de jeunesse. J'en ai fait d'autres sur le style, comment améliorer son style pour le rendre un peu plus contemporain. Et là, je viens d'en faire cette année un de 5 sessions sur les personnages, comment rendre ces personnages authentiques dans des romans, dans des histoires. Et là, on est en plein cours de la dernière série qui est comment structurer une histoire.
Le français a accompagné l'autrice toute sa vie. Elle en parle comme un pilier pour son identité.
Pour moi, le français, c'est vraiment une question identitaire. Étant donné que j'ai habité dans tant de pays différents, Le français, c'était un peu la seule chose que je pouvais garder avec moi à travers les déménagements. Je pense que je suis passée par 14 déménagements. Et donc, le français, c'est vraiment une question d'expression de soi, pour moi, et aussi de continuation, un peu, à travers l'évolution géographique. Donc, quand ça vient à la langue, c'est vrai que je me suis pas trop adaptée dans les différents pays. J'ai surtout vraiment, enfin si j'en ai appris d'autres, mais ce que j'essaie de dire, c'est que le français, je l'ai vraiment gardé comme ma langue première. Et le français au Canada, c'est intéressant, et à Toronto surtout, parce qu'il est différent, bien sûr, dans toutes les régions, mais à Toronto, c'est une langue vraiment que tout le monde, j'ai l'impression, voit comme une belle langue. Déjà, ils veulent l'apprendre. Les anglophones auraient voulu peut-être, disons, quelque part mieux l'apprendre à l'école secondaire, ça leur aurait servi plus. On voit quelques anglophones qui participent aux ateliers d'écriture ici, mais il y a surtout des francophones, donc des Français d'Europe, disons, ou des franco-ontariens qui participent, qui veulent vraiment acquérir ces outils pour mieux écrire, pour avoir cet élan pour l'écriture. Et donc ça va de pair avec l'écriture pour moi, la langue française, parce que c'est une façon de, enfin c'est ma carrière, c'est devenu ma façon de m'exprimer. Et bon, je disons j'ai un salaire avec, heureusement, mais voilà. Donc la langue et l'écriture pour moi c'est un peu la même chose, c'est une expression de soi et de son vécu.
Zoé participe aux ateliers de Lamara Papitashvili. Elle est d'origine chinoise, elle a passé quelques années en France et elle réside depuis maintenant 3 ans à Toronto.
Je me suis inscrite au newsletter de Toronto Public Library et j'ai trouvé ce programme en français, donc j'étais très très contente. Ouais.
Travaillant dans la finance, Zoé n'avait pas particulièrement l'intention de rédiger un roman avant d'aller aux ateliers.
Déjà, j'aime toujours parler français, je trouve que c'est une langue très littéraire, je pense que... Enfin, quand je lis le français, ça me fait penser, ça me fait réfléchir, voilà, sur ma vie quotidienne et aussi plus de questions philosophiques. Voilà.
Bonjour, ici Adèle à Halifax en Nouvelle-Écosse. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Et si l'on chouchoute les francophones de la ville de Toronto, l'association Francophonie Albertaine Pluriel a quant à elle décidé de lancer un cercle de conversation en anglais destiné aux immigrants permanents et réfugiés de la région d'Edmonton. Les nouveaux arrivants francophones et allophones de la région d'Edmonton pourront parfaire leur grammaire, vocabulaire et aptitude de conversation, mais aussi interagir avec des immigrants qui vivent des difficultés d'intégration similaires aux leurs. Éline Coulou en parle avec Adon Marius à CEPO, agent d'intégration et de liaison communautaire à la Francophonie Albertaine Plurielle d'Edmonton.
Nous savons que l'intégration des nouvelles arrivants passe par 3 dimensions. L'intégration économique, l'intégration résidentielle, l'intégration socio-culturelle et l'intégration linguistique. Alors nous permettons à ces nouveaux arrivants d'avoir la base en vocabulaire, en grammaire, en anglais pour pouvoir mieux s'intégrer sur le plan linguistique.
Est-ce qu'il s'agit des cours ou soit comment présentez-vous ça?
C'est juste un cercle de conversation pendant lequel il y a des conversations entre les participants, mais il y a aussi des cours qu'on donne, des cours de base, de grammaire et de vocabulaire.
Est-ce qu'il s'agit d'un premier lancement ou soit cette activité existe déjà depuis?
Le cercle de conversation en anglais existe il y a plus de 4 ans depuis la mise en place de la frappe, depuis que la frappe a pris le mandat, ce cercle de conversation existe.
À quel auditoire vous attendez-vous exactement? Je veux dire, les plus petits, les jeunes ou les adultes?
Principalement, ce cercle de conversation en anglais est dédié aux nouveaux arrivants, aux immigrants, les résidents permanents et les réfugiés acceptés. Mais à côté de ça, tout citoyen ou toute personne qui voudrait aussi apprendre ou intégrer le cercle de conversation serait le bienvenu. On ne peut rien faire si on n'arrive pas à communiquer. Et il y a une langue qui est là, il faut l'apprendre. Et ça nous permet d'aller dans les supermarchés, au moins faire les premiers achats, pouvoir s'exprimer et tout, pour demander un service en anglais. Il y a quand même le béaba qu'il faut connaître. Alors donc, nous invitons tous les nouveaux arrivants, sans exception, de venir et à travers ces scènes de conversation-là, ils pourront apprendre, échanger. Mais au-delà de ça, ça leur permet de faire un réseautage pour eux, de connaître toute personne. Et je pense que le Canada encourage, n'est-ce pas, le réseautage social.
Adon Assepo, vous êtes agent d'intégration et de liaison communautaire à la FRAP. Un très bon message de votre part et je vous dis merci pour cet entretien.
Merci, vraiment nous apprécions cette collaboration.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la Baleine, en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
La pédagogie entrepreneuriale consciente, ça vous dit quelque chose? Eh bien, à Cornwall, en Ontario, des élèves des écoles secondaires du Conseil scolaire du district catholique de l'Est ontarien, CSDCEO, foncent à toute vapeur dans la création d'entreprises. Ils sont parrainés en cela par des dragons, des mentors du Conseil scolaire, qui vont les aider à développer leur fibre entrepreneuriale. 6 élèves du CSDCEO ont eu la chance de participer au Dragon cette année, où l'élève transforme un concept en un projet d'affaires très concret. Par exemple, Jérémy Gauthier de l'école secondaire catholique Castleman a monté un projet d'entretien paysager. Léane Beauchamp de l'escale de Rockland, un projet de tutorat. Nicolas Chartrand de l'école secondaire catholique La Citadelle de Cornwall, un projet de recyclage. Et Florence Chartrand a monté un plan d'affaires pour sa future garderie coup de cœur. Alors, de Cornwall en Ontario, notre nouvelle collaboratrice, Melissa Woodbury, est en compagnie d'Éric Charlebois, vice-président de la SDCPR, et Lynn Racine, directrice de l'éducation au CSDCO.
Depuis quelques mois, des élèves de différentes écoles secondaires du Conseil scolaire développent leur petite entreprise et leur plan d'affaires qu'ils ont finalement présenté devant les dragons du CSDCO. Le projet en est à sa première édition. Réalisé en partenariat avec la Société de développement communautaire de Prescott Russell, le projet a permis de remettre un total de 13 000 $ en bourse à 6 élèves du secondaire. Tout au long du projet, les élèves pouvaient compter sur le support de leurs enseignants et de plusieurs mentors. Le vice-président du conseil d'administration de la SDCPR, Éric Charlebois, nous explique l'importance de pouvoir contribuer à former la relève et les aider à développer leur aptitude entrepreneuriale dès le secondaire.
On parle de plus en plus de relève. On a parlé énormément, à juste titre, de pénurie de main-d'œuvre, mais ça nous a aussi laissé entrevoir une pénurie de relève. Parce que des entrepreneurs en herbe, il y en a en tabarouette chez les jeunes, encore plus que lorsque moi j'avais leur âge. Des idées, là, ça pullule. Et des moyens de concrétiser, ma foi, ils sont plus aptes, beaucoup plus aptes que moi, à concrétiser leurs idées sur le plan technique, sur le plan technologique, l'obtention des renseignements aussi. Quand on parle de relève, on parle aussi de rapprochement. On parle de combler un écart intergénérationnel afin de rendre les choses bien transgénérationnelles. Qu'on apprenne, nous aussi, d'eux.
Le projet ne s'arrête pas là pour les élèves. Au-delà du financement, c'est un lien durable qui se crée entre les mentors et les élèves pour arriver à un réel partage des compétences.
Et cet appui-là, il prend diverses formes. Donc, le coaching, le mentorat, oui. Les conseils à brûle pour point. On m'appelle, on m'envoie un courriel. Ça n'a pas besoin d'être une séance de coaching officielle. Ça peut être une réponse éclair de ma part ou de la part de mes collègues aussi. Là. On est hyper accessible également. Donc cet appui-là, il est loin d'être seulement financier. Même que j'ai envie de vous dire là, que si on devait passer de la rentabilité, viabilité à la durabilité, c'est peut-être beaucoup plus les conseils. Et l'expérience donc dont ils vont se prévaloir de la part des gens autour d'eux. Parce que ben, ces jeunes-là ont aussi un entourage.
Ce n'est d'ailleurs pas le premier projet entrepreneurial du CSDCO. Le conseil mise sur l'entrepreneuriat dès l'élémentaire avec, entre autres, les petits entrepreneurs qui a permis de développer plus de 2500 petites entreprises d'un jour depuis 2015. Transmettre la fibre entrepreneuriale à un si jeune âge peut certainement ouvrir des portes pour l'avenir des élèves. Lynn Racine, directrice de l'éducation, explique comment le projet des Dragons du CSDCEO est en lien direct avec leur plan stratégique et s'aligne directement sur les objectifs du conseil scolaire.
Grosso modo, ça fait plusieurs années qu'on voit tout ce qui est entrepreneuriat au niveau du CSDCEO. Puis je dirais que c'est ça qui vient vraiment nous démarquer des autres conseils. Donc, on appelle ça la pédagogie entrepreneuriale. Elle est dans toutes nos écoles élémentaires. Parce que là, ça, c'est juste une parcelle de tout ce qu'on fait au niveau conseil. Mais c'est un beau projet, innovateur. Mais toutes nos écoles sont des écoles entrepreneuriales. Comme nos écoles élémentaires, même nos écoles secondaires embarquent aussi, commencent à embarquer avec plein de beaux projets et de partenariats comme celui-là. Puis on est allé même plus loin que ça à l'élémentaire, c'est que dans les salles de classe, c'est tantôt je parlais qu'on cherchait à aller, on visait l'apprentissage en profondeur dans toutes nos salles de classe, mais c'est par justement l'entremise de l'entrepreneuriat qu'on fait ça, la pédagogie entrepreneuriale consciente qu'on appelle, et c'est des jeunes qui se prennent en main puis qui développent des projets. Puis qu'au niveau même de la salle de classe, sont évalués en fonction d'objectifs en français, ça peut être en mathématiques, c'est inclus. Donc, on vise toutes les matières, mais ils créent leur projet, toujours dans le but de répondre à un besoin quelconque de la communauté ou de leur école.
En intégrant l'entrepreneuriat à l'éducation, les élèves peuvent se sentir engagés et développer des compétences complémentaires qui leur servira de tremplin vers l'avenir. Vu le grand succès de la première édition des Dragons du CSDCEO, Mme Racine était fière d'annoncer le retour du projet l'an prochain.
Oui, c'est la première cette année, puis là, j'ai entendu que ça se poursuit l'année prochaine. On est très fiers qu'on va continuer à roder tout ça, puis à offrir des occasions d'apprentissage à nos élèves.
C'était un reportage de Mélissa Woodbury dans le cadre de l'initiative de journalisme local.
Bonjour, ici Marie Hillès à Ottawa, en Ontario. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
C'était le jour de la Terre le 22 avril dernier. Cette journée internationale a d'ailleurs été célébrée pour la première fois le 22 avril 1970. Et même si chaque jour devrait normalement être le sien et de ce fait la nôtre, la journée de la Terre a été célébrée partout au Canada et en particulier à Winnipeg, au Manitoba. Mathilde Trépeuche, en mission de service civique au Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba, organisait le 5 mai dernier, donc bien après, en raison de la neige, une corvée de nettoyage de la rivière Seine. On ne parle pas évidemment de la Seine en France, mais bien de cette rivière qui prend sa source dans la forêt provinciale de Sandylands au Manitoba et qui s'écoule vers le nord-ouest, vers Winnipeg. Alors de Saint-Boniface au Manitoba, Iman El-Hadji est en compagnie de Mathilde Trépeuche.
Donc la rivière Seine, c'est le premier endroit où a été lancée la collecte de déchets par le CEDEM il y a quelques années. Donc c'est un peu devenu une tradition d'organiser cette collecte dans cette région-là. Et si le CEDEM a choisi de concentrer ses efforts le long de la Seine, c'est notamment parce que sur les berges, il y a énormément de déchets qui s'accumulent avec la montée, les eaux qui montent et qui baissent. Et aussi, donc, la proximité avec la rivière fait que les déchets contaminent non seulement les berges, mais peuvent aussi contaminer l'eau. Il est donc très important de tenir cette zone propre. Et puis, c'est aussi une manière de valoriser notre patrimoine, puisqu'il y a un sentier qui fait le long de la rivière et qui fait notamment partie du sentier de Dawson. Donc, d'ailleurs, on a une balise de signalisation qui a été inaugurée mercredi, là, donc ce mercredi. Et donc, valoriser ce chemin et ce sentier, c'est aussi mettre en avant l'héritage historique du Manitoba et du Canada.
Merci pour ces informations, Mathilde Trépeuche. On a allumé notre radar et ses pulsations clignotent en Ontario. Dans les TNO et au Québec, la Société d'Alzheimer de Cornwall et Région, ainsi que la police provinciale de l'Ontario, la police de Cornwall et la police d'Aquasasne viennent de lancer le projet Lifesaver dans l'Est ontarien. Non, il ne s'agit pas du fameux bonbon dont nous nous sommes tous régalés, mais bien d'un service de localisation radio qui permet de retrouver, via un bracelet électronique, des personnes souffrant de troubles cognitifs et qui ont pris, sans le savoir, la clé des champs. Mélissa Whitbury en parle avec Mélissa Bouchard, sergente et coordonnatrice des services communautaires à la police provinciale de l'Ontario.
Notre politique, quand quelqu'un qui manque à l'appel, ne va pas changer. Donc, on va quand même se bâtir une équipe qui va répondre à l'appel. Donc, on a tout le temps notre emergency response team, on va tout le temps contacter le maître chien, etc. C'est un outil supplémentaire à notre politique courante qu'on a dans la police provinciale d'Ontario. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'en attendant que les ressources arrivent à la scène, les opérateurs de l'instrument vont être capables de commencer les recherches, sachant pas combien de temps que ça va prendre avant que l'équipe complète arrive sur la scène en question. Donc, ça va juste peut-être alléger, mais aussi accélérer le processus puis accélérer les trouvailles de cette personne-là.
Restons en Ontario, où Hubert Héberge, posté à Penetanguishene, nous rapporte que la Société de l'Alzheimer du comté de Simcoe invitera la population à faire 11 000 pas tout au long du mois de mai, ceci pour soutenir les personnes atteintes d'Alzheimer et de démence. Ce chiffre n'est pas lancé au hasard. La maladie d'Alzheimer et la démence touchent plus de 11 000 personnes dans le seul comté de Simcoe en Ontario. Et notre plus récent collaborateur, Maxime Jaudoin, est en poste aux Escoumins, au Québec, et son premier topo nous présente les défis que plusieurs municipalités régionales de comté doivent assumer en matière de culture, de développement économique, de santé et de loisirs, surtout en régions éloignées. Parlant d'éloigner, allons plus au nord encore, dans les territoires du Nord-Ouest, où Raphaël Hamel nous apprend que la Fondation communautaire de Yellowknife vient de lancer le Fonds d'éducation aux soins infirmiers pour les Autochtones des territoires du Nord-Ouest. Ceci à la mémoire de Sharon Morrison, qui a consacré sa carrière à former des futurs infirmiers et infirmières des territoires. Trois bourses de 2 500 $ seront offertes à des étudiants autochtones. Et deux nouvelles du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse est toujours aussi populaire auprès des amateurs de course à pied, nous apprend Daniel Aucoin. La course à relais du Cabot Trail y prend ses aises depuis plus de 30 ans. Des milliers de participants sont attendus du 26 au 28 mai prochain. Notre ami Maxime Gauthier s'est déplacé à la bibliothèque de la communauté rurale de Kedgewick, au nord du Nouveau-Brunswick, laquelle vient de souffler ses 40 bougies. L'historien du village, Maurice Babineau, y était, de même que la première gestionnaire de la bibliothèque, Mariette Tardy, et d'autres personnalités. Voici d'abord Mariette Tardy.
Ça fait 15 ans que je suis retraitée, puis que je reviens aujourd'hui, puis je suis venue à l'occasion, mais de voir tout ce qui s'est fait, puis de voir l'enthousiasme encore que toute la population ici a, puis en plus qu'il y a de l'implication, puis je vois que du côté de la mairie, je vois les commissaires, c'est toujours aussi bien, le personnel, il est documenté, puis il est à la page. Je suis très, très fière.
On a discuté avec celle qui agit à titre d'aide bibliothécaire depuis maintenant 4 ans, une expérience de travail enrichissante pour Mme Marie-Josée Couaté.
J'aime beaucoup mon emploi parce que c'est un milieu qui me permet de me recréer. J'aime les milieux également qui vont stimuler mon intellect. J'aime mon travail aussi parce qu'il est très créatif. Il me permet d'être en contact avec les gens, mais surtout, je suis au service des gens. J'aime rendre les gens heureux. J'aime permettre ou aider les gens à pouvoir atteindre leurs objectifs.
Pour le maire de Kedgewick, la bibliothèque publique est d'une grande importance pour la communauté. On écoute M. Éric Gagnon.
Les portes sont jamais fermées. C'est facile à s'asseoir avec eux autres et avoir des nouvelles idées, discuter avec eux autres, des nouveaux projets.
Mme Diane Thompson est la gestionnaire de la bibliothèque depuis juillet 2012. Elle a cette institution à cœur. On l'écoute un instant.
La bibliothèque, pour moi, c'est vraiment l'image culturelle de notre communauté. Elle encourage la lecture, elle encourage de se dépasser. La lecture nous fait voyager, mais la lecture aussi nous rend plus volubiles, nous donne des ailes. Puis maintenant qu'on fait des prêts d'objets, ben là, écoute, il n'y a pas de limite.
La possibilité de procéder à la location d'objets a fait plusieurs heureux cet hiver, particulièrement pour les amateurs de pêche sur glace. Diane Thompson à ce sujet.
Écoute, j'ai des lignes à pêche pour l'hiver, j'ai des lignes à pêche d'été, j'ai des tentes, j'ai des tarières pour percer la glace, j'ai des chaises, j'ai des chaufferettes. Ça coûte 0. T'as juste besoin de ta carte de bibliothèque. Tu peux pas avoir mieux que ça, là.
Avec l'accroissement de la technologie qui prend maintenant une place considérable dans la vie des enfants, et ce, de plus en plus jeunes, les bibliothèques en général doivent évidemment trouver le moyen de s'adapter. Selon Diane Thompson, c'est une des raisons qui explique toutes ces nouveautés.
Bien, je pense que c'est un peu les citoyens qui demandaient ça, plus que des livres. Puis le gouvernement a décidé de, oui, on embarque dans le prêt d'objets pour encourager la population à faire plus de sport, à faire plus d'activités en famille. Mais de plus en plus, j'imagine qu'on va s'en aller vers là. Les jeunes qui poussent en arrière de nous autres sont sur leur téléphone, leur tablette. Faut qu'on s'adapte. Puis tu sais, c'est pas vrai là, qu'un jeune va me dire, « Oh, moi, la lecture, c'est pas important, là, je lis pas. » Ben, je m'excuse, là, mais tout le monde lit, là. Parce que si tu peux pas lire un stop, tu peux pas lire un arrêt, tu peux pas lire un spécial, un morceau de linge, tu peux rien faire dans la vie.
Selon le site web du gouvernement provincial, près de 20% des néo-brunswickois adultes ont un niveau de littératie inférieur à la moyenne et 30% des enfants éprouvent de grandes difficultés en lecture et en rédaction. Pour le député M. Gilles Lepage, la lecture devrait être une priorité pour les jeunes.
Quand on fait de la lecture, on découvre, on voyage, on innove, on apprend. Et je pense que l'importance de la lecture, ça nous aide aussi dans toutes les autres sphères, tous les autres spectres de l'univers. Et on n'a pas le choix. En mathématiques, il faut savoir lire. En sciences, il faut savoir lire. Et j'invite les jeunes à ouvrir les livres et à lire.
Madame Diane Thompson prévoit rester gestionnaire de la bibliothèque de Kedgewick pour encore plusieurs années et souhaiterait voir une amélioration de l'achalandage au niveau des adolescents.
Nos ados, ils viennent pas à la bibliothèque. faut vraiment qu'on essaie de trouver une façon de ramasser nos adolescents puis de les apporter à la bibliothèque pour des programmes. Tu sais, l'art oratoire, les gens ont besoin de pratiquer juste à parler devant le public, à faire des choses. Faut vraiment que les ados, c'est important. C'est eux autres qui vont nous soigner demain matin, là.
Bonjour, ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin. Vous écoutez Point de vue.
Et c'est là-dessus que prend fin cette édition de Point de vue. Nos journalistes cette semaine, Marine Otogali, Iman Elagi, Éline Coulou, Raphaël Hamel, Maxime Jaudouin, Hubert Héberge, Maxime Gauthier et Mélissa Whitberry, coordonnateur national Stéphane Bénard, l'équipe de l'initiative de journalisme local, vous vous en apercevez, ça grandit. Voyez ce qu'il couvre au quotidien sur canada-info.ca. Point de vue est produite par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa avec la précieuse et indispensable collaboration de votre radio, et on lui dit merci, et à vous de nous tenir compagnie. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. À la semaine prochaine. Ciao.